Nancy Marie Vuil, sous le pseudonyme d'André Gladès, Résistance. Première partie. Chapitre 1. Ce fut au cours d'une de ces orageuses explications de famille, dont la fréquence aurait dû endurcir son cœur, que Christine prit la résolution de quitter la maison paternelle. Droite, le buste rejeté en arrière dans un léger raidissement d'orgueil, les bras croisés, sa blanche figure douloureusement contractée, mais les yeux secs, elle laissait sans répondre, presque hébétée, le torrent des accusations rouler sur elle. Tous les détails de cette scène devaient rester gravés dans sa mémoire. On l'avait appelée dans la salle à manger, où, à travers les stores de toile écrue, le gros soleil de 3 heures dardait une chaleur accablante. La jeune fille se sentait comme une criminelle en présence de ses juges. En effet, devant elle, sur la table recouverte d'un tapis de laine brune, gisaient ses lettres, ses 3 chères lettres d'amour, relues et baisées tant de fois qu'on lui avait volées, oui, volées pendant son absence, dans la poche d'une de ses robes. Et, séparée d'elle par toute la largeur de cette table, sa mère, les froissant d'une main irritée, lui adressait de véhéments reproches, tandis que son père, le docteur Niel, grave et soucieux, affalé dans un fauteuil à la droite de sa femme, approuvait par un silence chagrin. De l'autre côté de Madame Niel, la tante Mélanie, une vieille fille médisante, parente éloignée de la famille, complétait le jury. C'était elle qui avait provoqué cette scène, en conseillant à ses amis de mieux veiller sur leur fille aînée. Maintenant, elle baissait la tête d'un air contrit, partagé entre le remords de sa vilaine action et la joie de se trouver mêlée à un secret de cette nature. Tout d'abord, malgré la répugnance qu'elle éprouvait à s'expliquer devant ce témoin antipathique, Christine, étranglée de sanglots et les yeux noyés, avait tenté de se défendre. Elle convenait de ses torts. Elle avait manqué de confiance. Elle rougissait de sa dissimulation. Mais elle était aussi moins coupable qu'on ne se l'imaginait. Quand ses parents connaîtraient mieux Lionel, ils oublieraient leur prévention et comprendraient qu'elle eût cédé à la séduction de son amour respectueux. Respectueux! Madame Niel l'interrompit d'un sec éclat de rire. Le beau respect! Pousser une jeune fille de bonne famille à tromper ses parents comme tu l'as fait, et à l'hypocrisie, et à une correspondance clandestine, et la compromettre publiquement en lui donnant des rendez-vous, aujourd'hui à 4 heures dans le petit bois. Et tu y serais allée, malheureuse, tu y serais allée. Christine, navrée, courbait la tête. Sa volonté, sans doute, avait dit non, mais qui sait si son cœur, à la dernière minute, ne l'aurait peut-être pas entraînée. Comment faire sentir cette contradiction à sa mère? Âme dissemblable, elle se heurtait en toutes choses, et la jeune fille souffrait comme d'une douleur physique de devoir exposer le moindre de ses sentiments. Son amour était un jardin enchanté, tout fleuri de ses secrètes pensées que, frémissant de chagrin et de honte, elle livrait maintenant au regard. « Tu es une fille dénaturée !» Brusquement, elle releva la tête, fixant sur ses parents le regard de ses grands yeux clairs, dédaigneux de tante Mélanie. Mais sous la sévérité de leur visage, elle discerna soudain une telle angoisse que sa résistance se fondit. « Pourquoi, maman? J'ai 18 ans. On peut songer à m'épouser. »« T'épouser? Une ignorante et une écervelée comme toi? Je plaindrais l'homme assez fou pour y songer. » C'était par de telles réponses, où perçait une obstination à la traiter toujours en petite fille, que sa mère humiliait sans cesse Christine et excitait en elle un esprit de révolte. Cependant, elle réussit à se dominer et à répondre d'une voix posée. « J'ai 18 ans. Tu n'as jamais l'air de t'en souvenir. On a déjà vu des jeunes filles se marier à mon âge. » « Oui, des jeunes filles raisonnables, mais toi, tu viens de donner la mesure de ce qu'on peut attendre de toi. » Un frisson de hautaine impatience plissa le front de Christine. Mais elle s'était promis de conserver son sang-froid et elle reprit, avec un héroïque effort pour ne pas pleurer, « Qu'importe, puisqu'il m'aime ainsi. » Madame Niel haussa les épaules. Cette grande femme, sèche et blonde, au verbe autoritaire, avait aussi sur l'amour ses idées particulières. Toute sa jeunesse d'orpheline pauvre s'était passée à l'étranger à instruire des enfants nobles. Elle en gardait une amertume désenchantée, une conception pessimiste de la vie, comme un dédain sourdement rancunier des joies qu'elle n'avait pas eues. Son mariage tardif avec le docteur Niel, non plus que la naissance de ses 4 filles, n'avait pu amollir sa raide disposition. Elle aimait tous les siens, sans doute, mais d'une rigide affection, restant pour ses enfants, à force d'habitude, l'institutrice avant la mère. Le devoir inflexible et strict, la loi maussade. Voilà l'autel où elle sacrifiait et qu'elle crut profaner en y suspendant les fleurs gracieuses de l'indulgence. Elle ne se rendait évidemment pas compte du mal que faisaient ses paroles en tombant sur un cœur déjà si troublé. À ses yeux, la grave imprudence de sa fille n'admettait pas de circonstances atténuantes. Comment une enfant que ses parents croyaient avoir gardée si pure, si candide, l'imagination vierge de toute souillure, avait-elle pu descendre à une dissimulation aussi noire? Existait-il en elle une source latente de mal que la bonne éducation n'avait pu parvenir à étouffer et qui jaillissait à son heure avec une violence comprimée? Elle ne comprenait pas davantage l'impérieux besoin d'être aimée qui devait laisser sans défense cette jeune fille, systématiquement privée de tendresse, devant le premier homme qui lui parlerait d'amour. Fut-il moins séduisant que Lionel de Reuil. À la seule pensée que ce jeune homme, dont une enquête prudente lui avait révélé les antécédents déplorables, abusait ainsi de l'ingénuité de Christine, Madame Niel sentit sous le coup d'une indication renouvelée un flot de sang brûler ses joues. « Eh bien, s'il t'aime, il t'oubliera, » dit-elle enfin d'une voix tranchante. « Jamais je ne consentirai à un tel mariage. » « Pourquoi ? Parce que j'ai mes raisons. »« Si tu veux que je m'y rende, explique-les-moi, » supplia la jeune fille. Elle ajouta timidement, « J'estime avoir le droit de te les demander. »« Il y a des choses qui ne sont pas de ton âge et que je ne puis t'expliquer. »« Si tu étais une bonne fille, tu te rangerais sans contester à l'opinion. » En soirée à l'établissement thermal et permis de rencontrer des étrangers. Monsieur de Reuil n'est pas un parti pour toi. D'ailleurs, il n'a jamais songé à t'épouser. Es-tu simple ? T'en a-t-il parlé, voyons ? Oui, murmura Christine, confuse. Dans ce cas, son devoir aurait été de s'adresser à tes parents. Pourquoi n'est-il pas venu ? Elle se tordit nerveusement les mains. Devait-elle avouer que c'était elle qui l'avait empêchée de faire aucune démarche dans la conviction qu'il serait mal reçu? Ou aurait-elle la lâcheté de laisser peser une accusation sur l'aimé? Déjà, elle ouvrait la bouche pour le justifier quand sa mère la prévint en s'écriant presque triomphante. « Tu vois bien, il t'a trompée, c'est là ta punition. Il y a 2 espèces de femmes dans ce monde, celles qu'on respecte et celles qu'on ne respecte pas. On n'épouse que les premières. Il t'a prouvé qu'il ne te respecte pas. » Christine ouvrit de grands yeux effarés. Le sens de cette distinction lui échappait. Elle était d'une candeur extrême. Dans le désir de lui cacher les laids dessous de la vie, On la laissait, les yeux bandés, au bord d'un abîme qu'il aurait peut-être mieux valu lui éclairer. La défense soudaine, péremptoire, qu'on lui fit un jour de songer davantage à Lionel de Reuil, après avoir plutôt encouragé sa préférence, l'avait profondément blessé dans son sens inné de la justice. Puisque ma mère refuse de motiver sa conduite, s'était-elle dit, c'est qu'elle ne le peut pas. Son amour, encore vague, se fortifia de cette opposition. Cependant, le docteur, qui semblait avoir hâte de finir, se décida à sortir de son mutisme. « Fanny, ma chère amie, dit-il d'une voix lasse, ne devrions-nous pas considérer cette triste affaire comme terminée et tourner une page blanche? Je suis sûre que Christine regrette de nous avoir causé ce chagrin et qu'elle sera plus prudente à l'avenir. En attendant, je me charge d'écrire à ce jeune homme. » Mais Christine, résolue à vider son cœur, fit un geste de dénégation. « Et que lui écriras-tu » demanda-t-elle. Il la regarda, surpris. « Ce que je pense de sa conduite, et qu'il ait à cesser de te poursuivre. »« C'est impossible, » balbutia-t-elle, devenue tout à coup livide sous ses cheveux blonds. « Je l'aime. Il n'y a que lui qui m'aime. J'en mourrai. Nous nous marierons quand vous voudrez. Il viendra vous demander ma main. » « J'en serais bien fâchée, » riposta Madame Niel vivement, « car il perdrait sa peine. »« Pourquoi ?» demanda de nouveau Christine. « Je te l'ai déjà dit, nous n'avons pas de compte à te rendre. » Elle se tourna vers son père. Celui-ci, ennuyé et perplexe, évitait de regarder sa fille, dont les yeux d'angoisse la pitoyaient. Il comprenait vaguement qu'elle traversait une crise et que le rigorisme de sa femme faisait fausse route, mais son pouvoir de discernement s'arrêtait là. Pourtant, il hésitait à répondre. Fallait-il lui apprendre que ce Lionel qu'elle aimait tant, plus peut-être avec son imagination qu'avec son cœur, était un être corrompu, dépravé? Lui révéler les désordres de sa vie intime et son ascendance tarée? L'existence de ce triste aïeul ravagé par l'alcoolisme, de cette mère chez qui le mal héréditaire avait tourné en dévotion hébétée, seul directeur de sa jeunesse, lui-même n'avait été déçu que dans un rêve ambitieux qui flattait sa vanité de père. Mais elle, se pouvait-il que son âme enfantine eût été touchée, qu'elle eût souffert? Se pouvait-il qu'elle eut le droit de savoir? Comme il cherchait ses paroles, il surprit un regard de sa femme qui dicta, malgré lui, sa réponse. « Ta mère a raison, » se hâta-t-il d'affirmer. « Pourquoi n'as-tu pas confiance en nous? Tu me fais beaucoup de peine, ma fille. » Alors elle se mit à pleurer doucement. « Ce n'est qu'une enfant, après tout, » pensa la mère. Et, délivrée du malaise qui l'oppressait, elle laissa sa vague appréhension se détendre en aigreur, reprenant, après la grave question, cent autres accusations coutumières, souvent injustes, dont la redite exaspérait Christine. Ces nouvelles réprimandes intempestives eurent pour effet de sécher les larmes dans ses yeux et de mûrir son projet de révolte. Puisqu'on la méconnaissait ainsi, elle s'en irait. Une expression de douleur accablée se peignit bientôt sur ses traits mobiles. Hélas, qui la regretterait? Pas sa mère, qui lui reprochait en ce moment d'être pour elle une croix et un fardeau, ni son père, qui n'avait pas eu la pitié d'intervenir en sa faveur. Tante Mélanie, tout au plus, qui perdrait une belle occasion de faire du mal. La rougeur de l'indignation monta aussi aux joues de Christine, tandis qu'elle se remémorait ses griefs. Elle ne se rappelait jamais avoir reçu l'expression d'aucune tendresse. Elle ne connaissait que le froid baiser échangé avec ses parents, en quelques occasions solennelles. On ne l'avait jamais appelée d'aucun de ces doux noms que s'est trouvé l'amour des mères, On n'avait jamais encouragé cette timidité d'enfant, ni favorisé l'éclosion de son âme de jeune fille. La seule approbation qu'elle connut, c'était de n'être pas blâmée. On exigeait d'elle la raison d'une femme quand il s'agissait d'étudier, de surveiller ses sœurs, d'aider au ménage, de renoncer à un plaisir, et la soumission d'une enfant alors que son propre intérêt était en jeu. On faisait peser sur elle une tyrannie puérile qui s'étendait aux plus infimes détails. Et de fait, elle n'avait jamais pu choisir une robe. On ouvrait ses lettres, épluchait ses lectures, poussant le scrupule jusqu'à fermer d'une épingle les pages qu'elle devait omettre. On limitait ses amitiés, on réglait ses occupations heure par heure, on l'astreignait à des besognes inutiles et ennuyeuses. Espérait-on ainsi retenir dans une enfance tardive cette grande, belle et intelligente jeune fille de 18 ans qui rejetait enfin, révoltée, le joug étroit et lourd dont on lui meurtrissait les épaules. Maintenant, toujours très calme en apparence, toujours pâle, elle écoutait les yeux mi-clos. Tante Mélanie, pour ne pas perdre son temps, faisait osciller la navette entre ses doigts agiles. Et M. Niel suivait d'un regard somnolent le serpentin blanc qui glissait des genoux engainés de noir de la vieille fille sur le parquet fauve. Peut-être songeait-il à l'établissement thermal où on l'attendait à 5 heures et à la grande place inondée de soleil qu'il lui faudrait traverser pour s'y rendre. Peut-être voulut-il abréger le supplice de sa fille. Toujours est-il qu'il interrompit brusquement, comme au sortir d'un rêve, les récriminations de sa femme. « Ma chère Fanny, dit-il avec un geste d'impatience, si tu veux, nous abandonnerons ce sujet. Christine, je n'en doute pas, se repent et fera son profit de tes observations. Tu peux monter dans ta chambre, mon enfant. » Christine, cria sa mère au moment où la jeune fille, sans un regard, disparaissait dans le couloir. Emporte des serviettes à raccommoder. Elles sont à la lingerie. Elle obéit machinalement et rentra dans sa petite chambre avec une pile de linge qu'elle déposa sur le lit. Elle attendit, le front pressé contre le carreau de la fenêtre. La porte d'en bas grinça sur ses gonds bruyants. Puis elle vit son père, les yeux abrités et la canne à la main, traverser la place blanche de lumière et s'enfoncer dans l'ombre d'une ruelle. Alors elle saisit son chapeau, sortit elle aussi de la maison et se mit à courir sur la route de campagne. 4 heures venaient de sonner. L'air brûlait d'une chaleur de fournaise. Les grandes Alpes d'un blanc cruel se détachaient avec une pureté admirable sur le fond bleu voilé, tandis que, leur faisant face, le Jura, au pied duquel s'étageait la ville de Belleg, reposait le regard par la fraîcheur de ses forêts. À 7 heures et par ce soleil, Christine ne rencontra personne. Seul un paysan, assoupi sur sa charrette que traînait un cheval somnolent, ouvrit pour contempler cette demoiselle qui fuyait en robe rose et sans gants sur la route un œil alangui qu'il referma avec apathie, trouvant sans doute le jour trop chaud pour s'étonner. Maintenant, elle coupait court à travers champs et disparaissait dans la verdure d'un petit bois d'où s'échappait la rivière chantonnant. Elle s'arrêta soudain, devenue pâle, une main au tronc d'un noisetier sauvage. Le site était délicieux. Des deux côtés de la rivière, de hautes graminées balançaient leurs têtes légères et vides. Une mousse épaisse, soyeuse comme un velours, tapissait jusqu'aux interstices des troncs. Et des branches entrelacées, des hêtres et des chênes, entre lesquels sourdaient de jeunes sapins fuselés, tombait une lumière dorée, épanchée comme au travers d'une coupole d'émeraude sur les petits remous cristallins. Un jeune homme, d'une extrême beauté, dormait les yeux mi-ouverts, son long corps souple affalée dans les herbes, l'or d'un rayon barrant en biais ses cheveux roux. Le bruit léger des branches qu'on frôle ayant forcé son attention, il se détourna à moitié, soulevé sur son coude, d'un geste lent et d'une grâce inimitable. Hé, petite Christine, c'est vous ? Il se dressa, fit quelques pas au-devant d'elle. Sa belle figure efféminée rayonnait d'un facile triomphe. « Oui, c'est moi !» balbutia la pauvre Christine, qui, éclatant en sanglots passionnés, se jeta dans ses bras ouverts. Ce fut une détente après la dure contrainte qu'elle s'était imposée. Ses larmes jaillissaient comme d'une source intarissable, lavant à flot l'amertume de sa peine. Elle se laissait aller à cette sensation infiniment douce et nouvelle de pleurer dans des bras amis, se dédommageant en cette unique fois des larmes de toute sa vie qui avaient coulé solitaire et séché sous sa propre main. « On vous a tourmenté ?» demanda-t-il après un moment. Elle fit signe que oui, sans cesser de pleurer. « À cause de moi ?» Nouvelle affirmation muette. Alors, l'enlaçant toujours, il la fit un soir sur un tronc à moitié ruiné que soutenaient les bras noueux d'un lierre. Deux jeunes arbres, éployant leurs branches, l'ombrageaient d'un dais chatoyant, richement brodé de soleil. De tremblantes corolles parfumées étoilaient l'herbe sous ses pieds. Lionel, à genoux, puisa de l'eau dans ses mains arrondies en forme de conque pour qu'elle pût rafraîchir ses yeux. Cela la fit sourire à travers ses larmes. Et, ayant épuisé la coupe improvisée, elle saisit d'un geste confiant les mains humides de son ami pour les appuyer sur son front. « Racontez-moi maintenant, » dit-il. Docile, elle fit d'une voix oppressée, mais qui ne faiblit point, le récit qu'il lui demandait. Lionel de Reuil, glissé dans l'herbe à côté d'elle, le coude sur l'ourlet de sa jupe rose, l'écoutait avec un secret battement de cœur. Jamais elle ne lui avait paru plus désirable qu'assise sur son tronc rustique, entourée de la grâce des plantes et de la suave chanson de l'eau. Elle avait des cheveux blonds très épais et très pâles, d'une pâleur presque argentée, qu'elle tordait, bardait d'épingles sans coquetterie, et que sa course folle venait de faire descendre en désordre sur sa nuque. Sa robe, mal coupée d'une façon enfantine, ne parvenait pas à enlaidir sa taille, ni à déformer ses bras graciles. Sous son front bas se carrait la pensée, énergique et têtue, et la volonté qui, bonne ou mauvaise, une fois lancée, va droit au but. Mais, par un contraste frappant, la bouche d'une nervosité extrême que contractait la moindre émotion, les yeux qui se troublaient de promptes larmes, la peau trop fine que rougissait chacune des vibrations de l'âme, étaient d'une sensitive pliante, délicate et aimante, toujours capable de fondre de tendresse l'inflexibilité de sa première nature. Ainsi, tant qu'elle parlait, un observateur plus attentif que Lionel aurait pu remarquer le conflit très curieux où se débattaient ces deux natures. L'une animant ses yeux d'une sombre résolution, l'autre faisant déjà trembler sa voix avec des sons qui ressemblaient à des sanglots. Vous savez tout, dit la jeune fille en concluant. La question se pose à présent très nette. On m'a défendu de songer à vous, et moi je ne veux pas vous perdre. Vous en souffririez tant, n'est-il pas vrai? Et puis, je n'ai que vous. Alors que faut-il que je fasse, Christine? Emmenez-moi, répondit-elle, toute pâle mais résolue. Emmenez-moi en Irlande, chez votre mère. Elle doit être bonne, elle m'aimera, et j'ai tant besoin d'être aimée. Mais, petite Christine, murmura-t-il, étonnée et un peu inquiète de cette victoire inespérée. tandis qu'un sourire cruel se jouait sur ses lèvres imberbes. Sans doute, ma mère est une dame très douce, très bonne, qui vous trouvera charmante. Ce sont vos parents qui ne seront pas contents. Ils ne m'aiment pas, répondit-elle sur un ton d'exaltation douloureuse. Que leur importe? Peut-être seront-ils enchantés d'être débarrassés de moi. Ils se turent et restèrent tous les deux pensifs à regarder l'eau couler lente sur les cailloux blancs de son lit. Un oiseau, perché sur une branche voisine, lançait à gorge déployée une seule note moqueuse et stridente. Le doux visage de Christine s'attendrissait de plus en plus, et sur les traits de son amie persistait ce petit sourire aigu dont le sens échappait à son inexpérience. « Voici, dit-il tout à coup, ce qu'il faut faire. » Sa voix, nette, sans hésitation, contredisait la spontanéité de son plan. J'avais annoncé mon intention de quitter l'établissement incessamment. Je partirai ce soir. Soyez prête, vous, dans votre chambre, et écoutez bien. Un peu après 11 heures, vous entendrez le cri de la chouette dans le bouquet de saule que l'on voit de chez vous. Vous descendrez alors, doucement, doucement, et vous viendrez me rejoindre sur la route. J'aurai une voiture. Nous gagnerons la prochaine station, car il ne faut pas songer à quitter ensemble Bellaigue. De là à la frontière suisse, il n'y a qu'un saut. Cela vous plaît-il ainsi ? Christine, éperdue d'angoisse, ne répondit pas. Si ignorante qu'elle fût, et bien que depuis quelques heures elle vécût dans une sorte de rêve, poussée par une force inconsciente qui l'empêchait de juger ses actions, elle sentait pourtant que sa vie entière se jouait là sur un seul mot. « Vous hésitez ? » demanda Lionel. « Vous ne m'aimez donc pas ?» Une ombre de fausse tristesse voila son front. Christine se décida aussitôt. « Non, non !» s'écria-t-elle passionnément. « Avant tout, je ne veux pas que vous doutiez de moi. » Il n'y a que vous qui m'ayez jamais aimé. Je suis à vous, je vous appartiens, emmenez-moi. » Pauvre petite fille tendre, crédule, exaltée, dont l'âme n'était que flamme blanche, qu'il eût été aussi facile d'enthousiasmer pour le bien que pour le mal, et qui tendait ses mains suppliantes vers le seul amour qu'elle connût, prête à donner sa vie en échange, joyeusement, sur un seul mot du bien-aimé. Son intention ne fut pas comprise. Brutalement, Lionel la saisit dans ses bras, cherchant ses lèvres. Elle se dégagea avec un cri d'effroi. « Oh, non, non !» s'écria-t-elle, dans une révolte d'épouvante. « Pourquoi donc pas ? » fit-il étonné, « puisque nous devons partir ensemble. » Elle s'était écartée de lui, rouge de honte, et arrangeait fébrilement sa robe froissée dans sa hâte de s'enfuir et de se retrouver seule. Il y eut un moment de gêne pénible, comme si tout fût remis en question. « Vous viendrez ce soir ? » demanda-t-il, d'un air perplexe en lui tendant son épingle de chapeau. Elle fit un geste vague d'affirmation et se sauva à travers bois. Le cri de l'oiseau moqueur résonnait haut à ses oreilles. Christine passa le reste de l'après-midi dans une torpeur de lassitude. Le grand soleil lui avait donné la migraine. Elle se reposa, étendue sur son petit lit de fer, entourée de percales blanches. Personne ne s'inquiéta d'elle. Ne l'ayant vue ni sortir ni rentrer, on crut sans doute qu'elle boudait. Le papier de tenture exerçait une sorte de fascination sur ses regards somnolents. C'était le même dessin naïf qu'elle contemplait depuis l'enfance, le même sujet, en 4 parties, qui faisait de gauche à droite le tour de la chambre. Sur un fond de verdure vive, des médaillons de ciel bleu s'espaçaient à intervalles réguliers. Dans le premier, on voyait, au bord d'un puits, un berger en culotte courte et jarretière de ruban clair, au pied d'une bergère dédaigneuse. Dans le second, la belle semblait s'adoucir. Dans le troisième, ils partaient ensemble, les bras enlacés. Mais dans le quatrième, la jeune fille revenait seule s'asseoir sur la margelle du puits et pleurait, la tête dans son tablier rose. Je voudrais bien savoir pourquoi elle pleure, s'était souvent demandé Christine, dont cette légende avait beaucoup excité l'imagination de petite fille. Que de fois ses larmes brûlantes, ses larmes d'enfant plus poignantes qu'aucune autre, puisqu'elles coulent sans espoir, n'avaient-elles pas tenu compagnie au chagrin figé de la bergère? Il me semble que je la comprends maintenant, soupira la jeune fille, envahie d'une infinie tristesse, comme au seuil de l'irrévocable. À mesure que l'après-midi déclinait, son angoisse devint plus intolérable. La réflexion lui montrait toute la gravité de l'acte qu'elle allait commettre. Elle avait honte, elle avait peur. Un mot de bonté l'aurait sauvée. Son cœur ne demandait encore qu'à se réfugier dans la pure affection familiale contre un amour dont elle pressentait, avec un croissant effroi, l'erreur coupable, la fragilité, les périls. S'il m'aimait seulement un peu, sanglotait-elle. Car le mirage de tendresse suscité par Lionel l'attirait invinciblement. Elle voulait aimer, elle voulait être aimée, et dans sa simplicité, ne distinguait pas les sources de l'amour. Ce fut ainsi que son imagination, en qui elle avait toujours eu trop de confiance, lui suggéra la singulière idée d'une suprême épreuve. Elle descendrait dîner, quoiqu'elle n'éprouvât aucun besoin de manger. Elle épierait sur les visages le moindre signe de sympathie. Et, si elle s'était trompée, s'il l'aimait vraiment, elle leur avouerait tout, les supplierait de la sauver d'elle-même. Elle s'expliquerait à eux, ce dont elle n'avait jamais eu le courage. Violant toutes ses pudeurs, elle leur ouvrirait son cœur qu'ils ignoraient. Alors, ils oublieraient tous le mauvais passé. Une nouvelle vie commencerait pour tous, où elle s'efforcerait d'être plus soumise et plus patiente, eux plus indulgents. Ce fut dans cette disposition qu'elle s'assit à table entre tante Mélanie, qu'on retint à dîner, et Marthe, sa sœur favorite. Pendant tout le repas, Christine attendit avec angoisse ce mot, cette prévenance, ce regard même, cet unique regard qui aurait été son salut. Mais les visages autour de la table ronde exprimaient tous la même quiétude indifférente, et l'on causait sans entrain des menus incidents de la journée. Christine était en disgrâce. Personne ne lui adressait la parole. Ses sœurs puinées, Élise et Berthe, âgées de 15 et de 13 ans, coulaient sur elle, à la dérobée, des regards curieux, un peu sournois. Désespérant d'attirer l'attention sur sa peine, la jeune fille suivait la conversation, dans l'espoir d'y découvrir la parole généreuse qui ferait vibrer quelques cordes en elle, la mettrait en communication sympathique avec son entourage. Hélas, c'étaient toujours les mêmes propos si souvent entendus, le même parti pris, les mêmes préjugés de petite ville qui reparaissaient au fond de tout ce qu'on disait. Mademoiselle Mélanie, sotte et banale, énonçait toujours de la même manière tranchante des jugements mesquins. Et le docteur, quoique intelligent, critiquait par principe tout ce qui, dans tous les domaines, portait une étiquette un peu différente de la sienne. Ainsi, ce soir-là, à propos d'un nouveau procédé chirurgical, une discussion dépréciatrice que Christine écouta avec un réel chagrin. Elle s'intéressait à la médecine et son plus vif désir aurait été de seconder son père. Aussi s'affligeait-elle de cet entêtement. Son active imagination en rébellion constante brûlait au contraire d'essayer toutes les voies, toujours prête à se lancer par-delà les limites qu'on prétendait lui imposer. Au dessert, on servit une tarte aux cerises que Madame Niel découpa sous les yeux gourmands des petites filles. Christine refusa d'y toucher. Le cœur trop serré, elle n'avait encore rien mangé. « Comme tu voudras, lui dit sa mère. Tes sœurs se partageront ta part. »« J'en ai assez de la mienne, maman, dit promptement Marthe aux doux yeux de Pervenche. » Et sa grande sœur sentit une menotte lui caresser le genou sous la table. « Elle est la seule qui soit bonne, pensa la jeune fille. Pourquoi faut-il qu'elle soit trop petite ?» Le dîner terminé, on alla respirer la fraîcheur au jardin. Ce que Christine attendait n'était pas venu. Elle suivit cependant sa famille, et tandis que ses sœurs versaient sur les plates-bandes l'eau de leurs petits arrosoirs, elle s'assit sur un banc à côté de son père. Sa mère et Mademoiselle Mélanie occupaient en face d'eux des fauteuils d'osier. Le soir rêveur allumait ses étoiles, et la petite rivière chantonnait derrière son rideau de saule, avec une douce voix apaisante. Mais le cœur de Christine restait tumultueux, et elle en voulait maintenant au sien de ne pas deviner ses tortures. Le docteur fumait paisiblement, les yeux tournés vers le Jura, où verdissait encore une bande de ciel vespéral. Il jouissait de son repos après une journée de fatigue. Madame Niel expliquait quelques questions de greffe à Mademoiselle Mélanie qui l'écoutait, placidement souriante, son éternel ouvrage au doigt. Les lèvres de la jeune fille se plissèrent d'ironie. Fallait-il que ses parents eussent attaché peu d'importance à son aventure pour rester si calme, si indifférent, pour que rien ne se communiquât à eux de l'angoisse qui la tenaillait. La scène de l'après-midi qui pouvait décider de sa vie entière avait glissé sur eux, sans laisser plus de traces qu'une des habituelles gronderies à propos d'une robe déchirée ou d'un devoir de ménage négligé. Est-ce que cela ne se lit pas sur mon visage? Est-ce qu'il ne devrait pas comprendre, deviner? Est-ce qu'il ne sente pas que je suis désespérée? Et c'est moi qu'on accuse toujours d'être insouciante et de manquer de cœur. Comment peuvent-ils? Comment peuvent-ils? Demain, ils ne seront pas si tranquilles, se disait-elle encore, avec presque une joie méchante. Puis, malgré la chaleur, ses mains se glaçaient et son sang battait avec force à ses tempes. Il fallait empêcher à tout prix que cela arrivât. Oh, qui l'empêcherait à 11 heures de se rendre dans le bosquet de saules? Voulez-vous jeter un coup d'œil sur mes abricotiers avant qu'il fasse nuit, Mélanie ? Demanda Madame Niel. La vieille fille serra promptement sa navette dans son réticule, et le docteur, d'un mouvement machinal, se leva aussi, précédant les deux femmes. Christine, avec une grande palpitation, se mit à marcher à côté de lui. À défaut de compréhension pour sa nature, c'était son père qui lui témoignait le plus d'indulgence, se défendant avec mollesse d'une partialité que désapprouvait sa femme pour la plus jolie et la plus féminine de leurs filles. C'était à lui que Christine voulait ouvrir son cœur. « Oh, Christine !» s'écria tout à coup Madame Niel d'une voix suffoquée. Chacun s'arrêta net. « Dans quel état tu as mis ta robe? Une robe fraîche de ce matin ?» La jeune fille, très mortifiée, baissa les yeux sur sa jupe rose, où des brindilles s'attachaient encore à des traînées vertes. « Tu crois donc que le blanchissage ne coûte rien ?» poursuivit Madame Niel. « À ton âge, être si peu soigneuse. » Les enfants s'étaient rapprochés, écoutant. « Elle est propre, ta robe !» s'écria Élise, d'un ton de supériorité dédaigneuse. « Comment fais-tu donc ? Moi, je porte la mienne depuis 8 jours. Elle n'a pas une tache. » La servante qui arrivait avec une boîte de cigares jeta un regard en passant et eut un petit sourire de pitié. Alors Christine, la tête haute, se dirigea vers la maison et monta s'enfermer dans sa chambre. La mesure était comble. Ce trivial incident, qui en temps ordinaire l'aurait à peine froissée, décida de son sort. Elle resta longtemps accoudée à la fenêtre, immobile et pensive. Elle vit les lumières s'allumer dans la ville, les étoiles poindre au ciel par milliers, les prés pâlir sous la clarté nocturne et les Alpes s'assombrir, passant du violet mort au bleu de nuit. À 9 heures, des pas très légers grimpèrent l'escalier. Une main chercha le bouton de la porte. D'un bond, elle fut debout, courut ouvrir. Ce n'était que la petite Marthe, qui, à moitié déshabillée, se suspendit à elle, câline et consolante. « Bonsoir, Tine. Je voulais t'embrasser. « Adieu, chérie, adieu !» sanglota la jeune fille. Elle la saisit dans ses bras, la baisant sur les joues, dans les cheveux, dans le cou. « Ne pleure pas, Tine, » dit l'enfant en passant ses doigts frais sur les yeux de sa sœur. « C'est demain jeudi. Nous ferons une belle promenade. » « Si jamais je suis heureuse plus tard, » se dit Christine en la déposant à terre, « et qu'elle souffre ici ce que j'ai souffert, je reviendrai la chercher. Pauvre mignonne, puisque tu m'aimes, j'ai peur que tu me ressembles. » Les bruits de la maison, peu à peu, s'éteignaient. Christine, toujours aux aguets, entendit ses parents fermer leur porte à l'étage inférieur. Et bientôt, la bonne, qui occupait une chambre mansardée à l'autre extrémité du couloir où se trouvait la sienne, fit crier l'escalier de bois sous ses pieds lourds. C'était fini. Personne ne viendrait plus. Christine, alors, changea de robe, mit un chapeau, noua une voilette, choisit ses gants. Puis elle s'approcha de la table et prit dans une cassette une pièce de 20 francs. C'était tout son argent de poche. Elle hésitait à le mettre dans son porte-monnaie. Lionel prendrait soin d'elle. Elle n'en aurait pas besoin. Une idée qui la fit sourire l'inspira tout à coup. Elle écrivit sur une feuille blanche, au-dessous de la pièce d'or, pour acheter une poupée qui parle à la petite Marthe. Ainsi, l'enfant verrait son souhait réalisé, qu'elle caressait depuis si longtemps. Ensuite, la jeune fille inspecta ses effets. Qu'emporterait-elle? Elle ne possédait ni sac ni valise, n'ayant jamais passé une nuit hors de chez elle. De nouveau, elle se dit que Lionel pourvoirait à tout. D'ailleurs, elle préférait sortir de la maison les mains vides, rien de ce qu'elle appelait sien ne lui appartenant en propre. Ce qui lui coûta le plus, ce fut d'écrire à ses parents. Elle sentait qu'elle le leur devait, et cependant, sa conviction de n'être pas comprise, quoi qu'elle dît, lui rendait la tâche très difficile. Enfin, elle parvint à tracer ces quelques mots, dont rien, sauf l'écriture tremblée, n'attestait sa grande émotion. Pardonnez-moi, j'ai lutté tant que j'ai pu, mais je perds la tête de chagrin, ici où personne ne m'aime. Lionel m'aime tant, lui, que je ne puis m'empêcher d'aller le rejoindre. Quand je serai partie, vous serez peut-être aussi plus heureux. Elle mit sa lettre sous enveloppe et la posa bien en évidence avec les 20 francs sur la table. Cela fait, elle regarda sa montre. Elle marquait 10h10. Pour occuper la tante qui lui devenait cruelle, elle fit l'inspection minutieuse de sa chambre, rangeant dans tous les coins et passant ses tiroirs en revue. Qui hériterait de sa chère petite chambre, confidente de ses joies et de ses peines? Élise ou Berthe? Elle avait le sentiment d'être si peu aimée qu'elle ne douta pas un instant que sa place ne fût aussitôt remplie et qu'elle s'ingéniait sans amertume à laisser toute chose dans l'ordre qu'elle supposait devoir plaire à celle qui lui succéderait. Quelques bibelots peu nombreux, car Madame Niel n'approuvait pas les nids à poussière, ornaient les murs. Christine s'arrêta longuement devant une photographie de grand format dans un cadre d'argent ciselé. C'était l'image d'une jeune femme, belle et gracieuse, en toilette de cour, dont le lourd manteau, en glissant, découvrait une épaule nue. Elle relut la dédicace à Christine avec le souvenir affectueux de sa marraine. Sa marraine, la princesse étrangère. Elle demeura un instant subjuguée, presque souriante, reprise au charme de l'image qui avait exercé un si merveilleux prestige sur son imagination enfantine. Son cœur allait à cette marraine d'une autre race, d'un autre monde, qui fut la dernière élève de sa mère et qu'elle aimait sans l'avoir jamais vue. Combien elle avait souhaité la connaître et que ce rêve lui semblait irréalisable désormais. Elle dépendit la photographie, la contempla avec attendrissement. Pas une fois elle ne se dit que cette image, vieille de 16 ans, ne devait plus donner une idée exacte de ce qu'était actuellement sa marraine. Après des efforts infructueux pour sortir du cadre ce portrait qu'elle aurait voulu emporter, elle le remit en place en soupirant. 11 heures sonnant à la cathédrale la firent tressaillir tout à coup. Pâle, elle éteignit sa lampe, revint se mettre à la fenêtre. La petite ville dormait, baignée dans le silence nocturne. Ces deux géants, la cathédrale et l'établissement thermal, dressaient leurs masses enténébrées. L'un de sa grande cour nue, trop en l'ombre d'un carré plus clair. Nul autre bruit que celui de la fontaine qui s'égouttait avec une plainte de cristal dans un antique bassin de pierre. La maison des Niels, par son jardin en pente, communiquait directement avec la campagne. La vaste campagne, grasse, cultivée, féconde, déroulée au pied du Jura. Derrière les Alpes, la lune épanouie commençait son ascension sereine. Tout ce paysage, d'une grandiose et sereine beauté, Christine en imprégnait ses regards et son cœur. Comment avait-elle pu se trouver là si malheureuse? Tous ses griefs s'évanouirent. Un souffle de brise caressa les aigrettes des arbres. Les herbes s'inclinèrent aux champs. Les saules frémirent au bord de l'eau. Il lui sembla voir une lumière briller et disparaître derrière le rideau des feuilles. C'était de là que devait partir le signal. Et ce seul point l'hypnotisa bientôt, la remplissant d'une terreur folle. Lente, inexprimablement lente, les minutes mesurèrent un infini d'angoisse. L'heure était passée. Elle se prit à douter que le signal se fît jamais entendre. Un éclair de joie irraisonnée la traversa. La combinaison avait échoué. Elle restait libre. Libre de rattacher à la 11e heure la chaîne dont elle croyait briser le dernier anneau. Un instant, elle sentit, heureuse et perdue, se refermer sur elle les portes de la famille qu'elle avait brûlé d'ouvrir toute grande à sa fuite. Un balbutiement de gratitude inconscient fit trembler ses lèvres. Mais elle revit soudain le mirage de tendresse, l'énigmatique douceur des yeux de Lionel. Son âme, fidèle, cria de douleur à la pensée d'une trahison. « mon Dieu » murmura-t-elle avec passion. « S'il tarde encore, c'est que vous ne voulez pas. Votre volonté est que je reste ici. » Je suis votre servante soumise, mon Dieu. » Déjà, elle pliait les genoux quand le cri de la chouette, répété 2 fois, monta du bord de la rivière, ululant dans l'air sonore. Christine s'arracha de la fenêtre et 2 minutes après, elle courait frappée d'épouvante à travers les prés blanchis de clarté lunaire.